manger du saumon avec des épinards à la crème. Et puis demain, on mangera des alouettes sans tête.
Europe 1, 11h30, la table des bons vivants.
La gaulière, c'est une tourte avec un fond de maroilles.
Avec une petite salade aux endives en ce moment. C'est pratiquement un moment de méditation, le déjeuner.
Laurent Barriotte.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Des conseils pour faire ses courses, des astuces pour cuisiner. Nos bonnes adresses, il n'y a pas de doute, vous êtes au bon endroit, chers auditeurs. La table des bons vivants, vous le savez, dressée tous les samedis de 11h à 12h30 sur Europe 1. Le guide Michelin essaye de maintenir son pouvoir sur le monde de la gastronomie. La cérémonie s'est déroulée lundi soir à Tours. Nous y étions et nous avons demandé aux chefs de toute la France le premier plat qu'ils ont cuisiné. Ça vaut bien un palmarès, vous entendrez. Tiens, à propos, on va se demander si aller au restaurant est devenu un luxe, comment le choisissez-vous? Lesquels préférez-vous? On en débat avec la bande. Et à midi, la chanteuse comédienne Elena Noguera est bonne vivante, nous rejoint pour le plat du jour. Il sera gourmand et végétarien. En attendant, voici mes bons vivants. Exploratrice du vin pour le journal Le Monde, elle va se transformer aujourd'hui en alchimiste. Bonjour Miss Glouglou Ophélie Neyman.
Bonjour Laurent.
Comment ça va?
Ça va très très bien.
Je vous vois pétiller.
C'est le printemps, ça change tout.
Pas certain qu'il finirait premier s'il se lançait dans la course des garçons des cafés de Paris. En tout cas, il est imbattable pour manier sa plume gastronomique dans le Figaro. C'est Emmanuel Rubin. Bonjour Emmanuel.
Bonjour, bonjour.
Vous allez
bonjour
courir.
À ma consoeur du
bien
monde.
Sûr,
bonjour à mon confrère du Figaro.
La presse écrite gastronomique est réunie. On aura peut-être même une surprise dans un instant. Andiamo. Ah bah là voilà la surprise, il vient d'arriver au sud de Coluche.
Bonjour
les amis.
Il écrit aussi dans la revue du Vin de France et vous l'écoutez dans la matinale de Lénaïque Monnier et vous le retrouvez bien entendu à cette table. C'est Olivier Pouls.
Oui, on a parlé de radis ce matin.
Ah.
C'est le printemps.
Un radis,
vous les
pas,
aimez les
une
radis.
Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais le radis oui. Hein.
Voilà, c'est vrai. Vous avez raison.
J'adore ça. Moi.
Tout simplement la croque au sel avec un peu de beurre.
Mais bien sûr, un bon beurre. Tiens, bah, puisque vous êtes là, Olivier, Ophélie et Emmanuel, quel est votre goût de la semaine? Je vous pose la question, Ophélie.
Eh bien, moi, c'est assez curieux, mais je voudrais parler d'un distributeur automatique. J'étais dans le Jura pour un petit reportage sur les vins et les vignerons. Alors, j'ai goûté des très bons restaurants, j'ai goûté de merveilleux vins, mais ce qui m'a le plus étonné, c'est cette drôle de guitoune en plein Arbois, place de la Liberté, un grand distributeur automatique ouvert 24h sur 24, pas du tout engageant. Hein. Mais vous rentrez et ce ne sont que des produits artisanaux, locaux, en circuit ultra court. Donc, le comté de la fruitière voisine, du saucisson du chalet gourmand, la bergerie de la Combalours qui vous propose des petits chèvres. Et c'était, voilà, le restaurant d'à côté qui met ses surplus de repas qui vous les propose. Et j'ai trouvé ça assez génial.
Et ça marche. Hein,
et ça marche très très bien. Et effectivement, j'ai pu acheter un peu de miel, un peu de comté à 10h30 du soir.
Et ben
alors,
voilà.
Parfois, la robotisation a du bon.
Et absolument, quand elle est bien menée comme celle-ci. Emmanuel Rubin, votre goût de la semaine?
À Paris, le retour d'un chef qui eut son heure de gloire et qui va la retrouver certainement dans les années 2000, il s'appelle Gilles Choucroun. Et
ah oui.
Gilles Choucroun, je crois que vous le connaissez
ouais,
tous, si je peux me permettre de vous passer son bonjour.
C'est vrai.
Il vient de reprendre le restaurant Bacave, qui est un très beau bistrot du 5e arrondissement.
Émile Cotte, qui était venu ici.
Alors il avait ce resto, Émile Cotte, il est parti à Boulogne, et donc il vient de revendre ce bistrot à Gilles Choucroun. Gilles Choucroun qui a le mérite de garder cette carte très bistrotière, très bourgeoise, avec le pâté croûte, avec le vol au vent, mais qui met son grain de sel. Et on va le voir, ce grain de sel, l'instant d'un plat et ce talent des chefs qui arrivent à vous faire passer justement des recettes dont on a du mal parfois à appréhender. Je veux parler de la cervelle de veau. Il en travaille une ici vraiment retravaillée, tranchée, très fine, légèrement pochée, comme il se doit, puis roussie, presque blonde. Alors elle garde tout son moelleux, et là on voit Choucroun. On parlait du printemps, des radis, lui met des petits pois, ça apporte de la croque. La cervelle de veau, c'est très dans le moelleux. Et puis elle rajoute un jus, moitié viande, moitié menthe, ça éclaircit le plat. C'est délicieux, c'est à la fois bistrotier et très inspiré. C'est le grand retour de Gilles Choucroun en pleine forme. On est rue des Fossés Saint-Marcel, 5e. Au Bacave.
Au Bacave. Et ben voilà, Gilles Choucroun que je salue. J'ai eu l'honneur va l'inviter, bien sûr. J'ai eu l'honneur d'animer des 24 minutes chrono avec lui sur Cuisine TV. Il m'a fait découvrir toutes sortes de condiments parce que c'est quelqu'un qui travaille les herbes comme personne et pour les associer et relever nos plats. Il a fait les grandes heures du Café des Délices.
Exactement.
Aussi à Paris. Monsieur Pouls, puisque vous êtes là, votre goût de la semaine, camarade.
Ben, j'étais à Bordeaux cette semaine et à un moment, il fallait bien casser la croûte. Alors je me suis attablé dans une table qui s'appelle Vivant. C'est la deuxième deuxième adresse d'un chef qui est assez connu là-bas, Tanguy Lavial, qui a fait les belles heures de Gare aux Papis et qui ensuite est installé dans un restaurant qui a une étoile et qui s'appelle Ressources. C'est donc sa deuxième adresse, un peu plus bistrotière, un peu plus abordable. J'adore cette cuisine, simple, efficace, très belle carte des vins, avec un décor un peu contemporain, dans une ville qui, je dois le dire, bouge énormément sur le plan culinaire. Ces dernières années, il y a 15-20 ans, Bordeaux, c'était la misère. Et aujourd'hui, on ne sait plus où donner de la fourchette.
Eh bah, tant mieux, c'est comme Marseille, ouais. C'est comme Lyon, toutes ces villes.
Vivant, voilà. Superbe restaurant Bordeaux.
Mon goût de la semaine, rapidement, c'est un bon pain de la boulangerie du Quai des Bons Enfants à Épinal. J'y étais cette semaine. Il travaille avec des variétés anciennes. Il s'est formé, ce jeune boulanger, auprès de Roland Feuillas, les maîtres de Montmoulin à Cucugnan. Il travaille aussi avec à Denieuville, quelqu'un qui fait des blés spécialement pour lui. J'ai découvert et j'ai dégusté un pain. C'est un pain qui se mange comme un repas, au levain, avec une belle acidité, avec du moelleux, avec une superbe humidité.
Et qui se garde.
Et qui se garde au moins 5 jours. Je l'ai toujours avec moi. Donc vive le bon pain. C'était la boulangerie du Quai à Épinal, dans les Vosges, comme on dit.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariette.
Vous êtes bien sur Europe 1, la table des bons vivants est dressée jusqu'à midi et demi avec notre Miss Glouglou internationale, Ophélie Lehmann, que vous pouvez lire dans le journal Le Monde, et notre journaliste gastronomique émérite, Emmanuel Rubin du Figaro. Alors, chers auditeurs, vous le savez, lundi soir avait lieu la traditionnelle cérémonie du guide Michelin. Emmanuel, Ophélie, ça reste la référence des guides pour vous, tiens, je vous pose la question, Ophélie.
Oh, moi, je pense que c'est quelque chose qu'il est bon d'avoir en tête. Voilà, quand on va quelque part et qu'on veut une belle table, faire un très bon repas gastronomique,
donc, toujours d'actualité,
je regarde,
pour vous.
Pour moi, voilà, ça reste un réflexe.
Emmanuel Rubin, vous qui avez la chance de manger, de déjeuner, de dîner au restaurant tous les jours, est-ce que ça reste une référence ou pas alors ?
Je pense que ça reste une institution, il ne faut jamais non plus perdre totalement ses institutions, en perte de vitesse totale, en perte d'influence complète. Oui, pour l'institution et pour la province, je dirais. Je pense que le travail qu'ils opèrent dans la restauration et dans la gastronomie de province est important. Oui. Dans les grandes villes, Paris, Marseille, Bordeaux, Lille, vous le disiez, n'ont plus rien.
Mais c'est vrai, vous
mais
avez raison.
Faute, hein.
Le palmarès est très tourné vers nos régions et vers la province, et c'est tant mieux. 52 nouveaux une étoile, 8 nouveaux 2 étoiles, 2 nouveaux 3 étoiles. C'est le Gabriel, pour le coup, à la réserve à Paris avec son chef Jérôme Banquetel. La table du Castellet et son chef Fabien Ferré pour le 3 étoiles dans le Var. Qu'est-ce que vous pensez de ce cru 2024 ?
Père Pénard. Moi, je crois que ces dernières années, Michelin, à chaque fois qu'il faisait un palmarès, il cherchait à faire le buzz, au risque du bad buzz. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé.
Retirer une étoile à Guy Savoy.
Récompenser il y a 2 ans des restaurants ou pas, alors qu'ils avaient été fermés quasiment pendant 10 mois durant la séquence Covid. C'était un peu n'importe quoi. Donc là, il calme le jeu. Il n'y a aucune faute de goût. C'est des adresses qui méritent toutes leurs étoiles. D'ailleurs, il y en a très peu qui ont été retirées. C'est une adresse notable. On sent qu'ils veulent un petit peu se rattraper.
Et la jeune génération mise en avant beaucoup aussi.
Oui. Hein, ça, ils n'ont pas le choix. Et aujourd'hui, c'est elle qui fait les choses. C'est vrai que... Alors après, quand on parle de jeune génération, Banquetel, c'est pas un jeune...
Non,
c'est
je pensais pas à lui, mais je pensais
mais sur les une
à
étoile,
Manon Fleury, par
voilà.
exemple. Sur les une étoile,
sur les
voilà.
Une étoile, et d'ailleurs, je pense que c'est souvent sur la matrice de la première étoile où ils sont le plus pertinents et le plus intelligents.
Mais on va se dire la vérité, les belles découvertes aussi, elles sont autour d'une étoile, parce que après, on est tous différents. Il y a déjà le budget, bien entendu, on en parlera tout à l'heure, hein, du budget au restaurant. Et puis surtout, le séquençage du repas, qui est beaucoup plus adapté à notre façon de manger, je pense, aujourd'hui dans un 1 étoile que dans un 3 étoiles, où ça dure très longtemps, forcément. Qu'est-ce que vous en pensez, Ophélie ?
Oui, alors Emmanuel a dit tout ce que je pensais, mais moi, c'est cette jeune génération des primés à la première étoile qui m'intéresse le plus, parce qu'effectivement, ça donne un petit vent de fraîcheur, et puis ça donne envie de découverte. Le reste, on est déjà dans quelque chose d'assez installé.
Alors, ce qui est dommage, parce que si on allait plus loin, la vérité de Michelin et du guide Michelin, en tout cas, il y a quelques années, il y a encore 30-40 ans, ils étaient beaucoup plus vindicatifs. C'est-à-dire que les jeunes chefs, quand ils étaient brillants, qu'ils avaient une vraie identité gastronomique, ils étaient capables de décrocher très vite 2 à 3 étoiles, ce qui n'est plus le cas. Ce sont devenus des notables. C'est dommage que des chefs qu'on connaît, comme Alexandre Gauthier à la Grenouillère, attendent encore et encore sa 3e étoile, que David Toutain à Paris, qui est un chef très créatif, avec un vrai univers, soit bloqué à 2. Donc on aimerait quand même que finalement, ils promeuvent aussi. Vous savez, on parlait de... Manon Fleury, qui vient de décrocher sa 1ère étoile à Paris pour un joli restaurant qui s'appelle Dattil.
Dans le 3e arrondissement.
Très sincèrement, cette chef-là, elle a un vrai univers, un vrai discours qui
très
va
végétal.
Au-delà de la cuisine végétale. Il y a même un discours presque social dans son restaurant. Pourquoi lui donner une étoile? Si Michelin voulait retrouver un petit peu sa niaque, sa force, au-delà de l'institution, d'être véritablement un moteur pour la gastronomie, fallait lui donner tout de suite 2 étoiles. Puisque de toute façon, on ne sait pas pourquoi et à quel rythme oui. on donne les étoiles.
Ça, c'est non, vrai que le passage d'une à l'autre est parfois compliqué. Oui.
On ne va pas se mentir, hein, ce rôle-là, c'est le fooding qui l'investit. Et le Michelin s'est retrouvé coincé à effectivement voir toutes les innovations mises en avant par le fooding.
Et ce qui est amusant, il faut le dire aux auditeurs d'Europe 1, c'est que le Michelin a investi dans le fooding.
Ils ont carrément racheté le fooding.
Ils ont racheté le fooding.
Ils ont racheté le fooding.
Au-delà des étoiles et autres récompenses, notre journaliste Marion Sauveur, eh bien figurez-vous qu'elle y était à la cérémonie. Elle a demandé aux chefs présents de nous raconter leur premier plat. C'est vrai que ça nous intéresse. Tiens, le premier plat qu'un grand chef a pu faire. Alors attention, chers auditeurs d'Europe 1, écoutez bien. Une pluie d'étoiles va s'abattre dans votre transistor et dans votre poste. Dans l'ordre, vous allez entendre Eugénie Bézia, ce sont des chefs évidemment, Jérôme Banquetel, Loïs B et Olivier Nasty.
Le premier plat que j'ai cuisiné pour moi, c'était pas pour moi, c'était pour mes parents. J'avais 11-12 ans. C'était une quiche à la Saint-Jacques, il me semble. Et j'avais une spécialité aussi, j'en étais très fière, que j'avais sorti du journal de Mickey, c'était un dessert à base de banane, c'est une mousse de banane.
J'ai fait l'école hôtelière et je dirais pas premier plat, mais première expérience avec le couteau, c'est la julienne de légumes. Sur la planche, il y a quelques morceaux de doigts et quelques coupures qui se sont faites. Et comme j'étais quelqu'un perspicace, quand les carottes étaient taillées, on les cuisait et puis on les mangeait.
C'est quoi la première recette que vous avez cuisinée?
C'est un petit feuilleté béchamel avec des cèpes que j'allais chercher avec mon papa en forêt de Sologne. C'était un à deux chacun et voilà, c'était le repas.
Je sais quand je suis rentré, ma première journée d'apprentissage, on apprenait à faire des fleurs avec la peau de tomate. Et après, c'était plus une charlotte à la fraise. Et je n'avais pas réussi à faire fondre la gélatine pour faire prendre l'appareil. Donc la charlotte, quand j'y ai retourné, elle n'a pas tenu.
Ah, la gélatine pour faire prendre la charlotte, oui absolument, il faut qu'elle fonde dans l'eau chaude. C'était Olivier Nasty, qu'on vient d'entendre, le chef du Kaisersberg, le chef du Chambard à Kaisersberg, pardon, exactement, en Alsace. C'est amusant, c'est Eugénie Bézia qui parle d'une recette du journal de Mickey. Jérôme Banquetel avec sa julienne de légumes, hein. Attention les doigts, la julienne de légumes, les phalanges bien repliées vers l'intérieur et la lame du couteau qui s'appuie sur les phalanges.
Ils ont d'abord et surtout des souvenirs d'apprentissage.
Oui, c'est vrai.
À part Eugénie, les autres, c'est vraiment des souvenirs d'apprentissage.
Exactement. Tiens, vous vous souvenez de votre première recette, vous, Ophélie?
Bien sûr, bien sûr. Pendant longtemps, on va dire entre 7 et 10 ans, je faisais des langues de chat.
C'est
simple,
magique, hein.
C'est très facile à faire, c'est facile à doser, donc je faisais des langues de chat. En revanche, quand je suis devenue étudiante, le premier plat que je me suis fait, c'était des gnocchis à la romaine, une recette de ma maman. Vous prenez de la semoule de blé dur, vous la faites cuire avec du lait bouillant, du beurre, de la noix de muscade, des œufs, du fromage râpé. Et puis vous rajoutez un peu de sauce tomate dessus.
C'est bien ça.
Ça, c'est vraiment un plat d'étudiant quand on a 18 ans.
Vous en avez déjà parlé, vous les refaites régulièrement.
Ouais, absolument, c'est
ça que j'aime.
C'est très régressif.
Avec ces belles recettes. Vous le savez, chers auditeurs, chaque samedi, on joue avec un bruit de cuisine. Aujourd'hui, Europe 1 vous offre un très, très, très beau cadeau. On vous offre un tire-bouchon électronique rechargeable, intelligent, 4 en 1, de la marque Climadif. C'est dingue tout ce qu'il fait, ce tire-bouchon. Je vous le dirai tout à l'heure. Vous allez entendre, c'est Géo trouve tout. On écoute ce bruit de cuisine. Alors, qu'est-ce que c'est?
Un rasoir électrique?
Non, c'est pas ça. Vous avez trouvé, pour jouer avec nous, c'est simple, vous envoyez un SMS avec le mot cuisine au 739-21, 3 fois 75 centimes, plus le coût du SMS.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Bonne cuisine, chers auditeurs, si vous êtes en train de la faire. Nous sommes en cuisine et à table jusqu'à 12h30 sur Europe 1. Bienvenue hein, si vous nous rejoignez, toujours avec la joyeuse amoureuse du vin, Ophélie Neyman, que vous pouvez lire dans Le Monde, et le très critique gastronomique du Figaro, Emmanuel Rubin. On se demande ce matin si le restaurant est devenu un luxe. On se pose la question après la sortie ce lundi du nouveau guide Michelin. On le sait, avec l'inflation, la hausse des matières premières, des coûts énergétiques, des charges, l'addition chez nos amis restaurateurs a pu augmenter ces derniers temps. C'est vrai que ça peut devenir un luxe hein, d'aller au restaurant.
Ah, c'est carrément, moi je pense qu'aujourd'hui c'est un luxe. En tout cas, c'est un coût et un sacré coût.
C'est ça, quand on en a économisé pour pouvoir aller au restaurant, c'est un signe.
Alors pour beaucoup d'entre nous, aller au restaurant est devenu un luxe plus difficile à s'offrir qu'autrefois. Écoutez, jusqu'à midi moins 10, on va vous donner des conseils pour faire baisser la note, chers auditeurs. Notre journaliste, Alessandra Bischoff, elle vous a justement tendu le micro d'Europe 1 dans les rues de Paris pour savoir si vous aviez changé vos habitudes en matière de fréquentation des restaurants.
J'y vais beaucoup moins qu'avant, oui. Avant, c'était 2-3 restaurants par mois. Là, franchement, ça fait un tous les deux mois.
J'allais déjà pas beaucoup au restaurant normalement avant toute l'inflation. Depuis, je fais encore plus attention au prix et aux sorties. Je préfère faire un bon resto de temps en temps. Avant l'inflation, j'avais tendance à y aller 2 à 3 fois par mois. Maintenant, ça va être une fois par mois, une fois tous les deux mois, vraiment.
Ça fait partie du budget qu'on se fixe. Mais je peux comprendre parce que justement, là, je reviens d'un restaurant et on se disait, waouh, les prix ont augmenté. Pour nous, c'est un plaisir d'y aller, de découvrir et d'avoir toujours cet accès aux cuisines traditionnelles. Nous, on est fans de resto.
Ben, on est fans de resto aussi à cette table, bien entendu, mais c'est vrai que malheureusement, ça fait partie des premiers arbitrages que l'on tranche quand on doit faire des choix dans le budget. Hein.
Ça date pas que de l'inflation, hein, ça date aussi du Covid.
Le Covid a changé les habitudes.
Exactement.
Hein. Ouais,
on s'est mis à télétravailler, à manger chez soi, à se faire livrer, mais ça s'est encore accentué récemment. Il y a une étude Gira Conseil qui le montre. La moitié des personnes interrogées ont dit qu'ils avaient réduit leur budget restaurant. Et parmi ceux-là, plus des deux tiers, je crois, 70%, ont rogné sur les sorties plaisir du soir, du week-end. Donc oui, on dépense beaucoup moins et ça se ressent dans les restaurants. En moyenne, moins 20 à moins 30% de fréquentation.
Donc, une vraie baisse de la fréquentation.
Oh, oui.
Emmanuel, vous qui, je le disais, passez votre temps au restaurant, c'est votre métier. Vous écrivez pour Le Figaro et vous testez des tables pour nous aussi. Les salles de restaurant sont moins remplies, vous diriez ?
Ah, totalement. Je n'ai jamais vu ça. J'aime à dire souvent, vous savez qu'un critique, c'est un peu un sociologue de terrain.
Absolument.
Moi, ça fait 33 ans, quasiment jour pour jour, que je suis critique au Figaro. À faire 5 à 6 restaurants par semaine, je n'ai jamais vu une casse pareille. Non seulement, on le dit pas assez, mais la masse de restaurants qui ont fermé ou qui vont fermer et qui ne sont pas remplacés pour la première fois. Ensuite, aujourd'hui, là où je pouvait parfois avoir du mal à réserver parce qu'il y avait 2-3 semaines d'attente sur des semi-gastronomiques ou des gastronomiques, c'est fini. Et puis pour tout le reste, les restaurants sont vides. Et d'ailleurs, ils sont tellement vides que les restaurants sont en train de s'adapter. Et aujourd'hui, ça joue sur les jours d'ouverture,
oui,
et les horaires.
Mais on en voit de plus
c'est
en plus qui sont fermés du lundi au mercredi. Hein.
Fermés le week-end, du lundi au mercredi,
aussi,
quasiment
oui.
Tous au déjeuner.
C'est dingue. Hein.
Donc on voit bien qu'il y a une nouvelle sociologie du restaurant et ça c'est parce que le public n'y est plus.
Bah tiens, justement, pour ceux qui continuent de s'attabler, Emmanuel, à combien s'élève, vous diriez, désormais l'addition en fin de repas? Est-ce qu'on a une moyenne de
alors
ça?
Alors oui, Gira Conseil, qui est vraiment un cabinet d'études très pointu en ce qui concerne les choses de la restauration, évalue le ticket moyen après études au restaurant. Alors qu'on aille de la pizza grill jusqu'au traditionnel, au gastronomique, c'est un ticket moyen. Donc toujours confondu à 31,69 €. Et ça tombe plutôt pas mal parce que c'est ce que la plupart des consommateurs sont aujourd'hui prêts à dépenser lorsqu'ils vont au restaurant, la trentaine d'euros. Et surtout, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on voit que les consommateurs, c'est-à-dire les clients ou potentiels clients, aujourd'hui constatent véritablement eux-mêmes une hausse des prix. Pour 80% d'entre eux, ils disent les prix ont augmenté. Et c'est vrai que dans le même temps, ils estiment aussi que dans l'assiette, eh bien, ça se réduit. Les ingrédients, les portions.
Oui, c'est vrai.
Pour 30%, ils disent ça se baisse dans l'assiette, par contre, ça augmente dans l'addition. Comment voulez-vous que ces gens-là aillent encore au restaurant?
Et puis, on fait l'impasse sur les desserts, on fait l'impasse sur les
c'est
boissons,
vrai.
On ne prend plus de vin au restaurant. Donc, on essaye de faire baisser la facture comme on peut. Et à la fin, on a mangé moins.
Dans ce contexte, justement, certains chefs cherchent des solutions. Et je pense à la chef Georgiana View, qu'on aime beaucoup, qui est venue nous voir déjà ici à cette table. Et elle a une idée originale pour faire revenir les clients dans son restaurant. C'est le restaurant rouge au sein du Margaret Hotel Schuller à Nîmes. Elle a une étoile au Michelin. Bien, pendant un mois, chez Georgiana, c'est très simple. Elle fait moitié prix sur ses menus, le mercredi et le jeudi au dîner jusqu'au 11 avril. Le menu, par exemple, est à 110 €, ce qui est un gros, gros budget. Eh bien, elle le fait moitié prix, 55 €. Donc, ça permet aussi à certaines personnes de redécouvrir le restaurant avec des tables étoilées et de vivre une vraie expérience, parce que là, on est dans de la haute gastronomie. Hein.
Et d'abord, bravo pour l'initiative. Et cette initiative, par elle-même, prouve qu'il y a un problème. Si une chef étoilée Michelin à Nîmes est obligée, aujourd'hui d'en arriver là, c'est bien qu'il y a un problème.
Alors, à l'heure du repas et au moment de choisir son restaurant aussi, il faut qu'on constate qu'il y a deux mondes qui s'opposent, Emmanuel. Hein, on parle beaucoup des restaurants de chaîne de temps en temps ici, et puis de nos bistrots, de nos restaurants de quartier aussi. Ce sont deux mondes différents.
Alors deux mondes, j'en mettrais même trois, moi.
Ouais.
Vous avez raison, les restaurants de chaîne. Ensuite, les restaurants indépendants, c'est-à-dire qui n'appartiennent pas justement à ces chaînes. Et puis une troisième, qui est le restaurant artisanal. Parce que le restaurant indépendant, il n'est pas forcément vertueux.
Qu'est-ce que vous appelez des restaurants indépendants, alors?
Je vais vous prendre un exemple. Prenons les chaînes très connues, Hippopotamus,
La Boucherie,
Chez Réjean.
Buffalo Grill.
Ça, ce sont des chaînes avec des commandes, voire des cuisines parfois centralisées, en tout cas des commandes verticales. Ça, c'est le restaurant de chaîne, même décor, même marketing, même puissance. Et puis, en vrai, le restaurant indépendant, mais qui, lui, ne fait pas forcément quelque chose de très bon et de très bien, qui va fournir dans
chez
le
métro,
bas de gamme chez Métro, bien, c'est la brasserie parisienne, le café-bar de quartier, et c'est le mauvais faux restaurant des centres-villes. Puis, il y a le restaurateur artisanal qui, lui, est non seulement indépendant, mais va travailler fait maison, à une plus-value de cuisine.
Avec des producteurs
locaux.
Donc
pour moi, il y a trois mondes.
Vous avez raison.
Et attention, parce que sous couleur de restaurant indépendant, on vous sert, comme disait l'autre, beaucoup de merde.
Bah voilà, au moins, c'est dit.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Elle est là, la table. On a plein de belles surprises pour vous, chers auditeurs. Déjà, Elena Noguera, la chanteuse, comédienne et bonne vivante, nous rejoint dans un instant. Elle fait de très belles lectures de Frida Kahlo actuellement au Théâtre de la Scala à Paris. Elle viendra nous parler de ses goûts culinaires. Et puis, nous ferons un tour de magie avec vous, Ophélie Neyman, tout à l'heure en ce qui concerne le vin.
Tout à fait.
On peut pas tout dire, mais c'est quelque chose de complètement bluffant. On parlera de la course des garçons de café avec vous, Emmanuel Rubin. Mais en attendant, chose promise, chose due, nos astuces, nos trucs, nos conseils pour vous, chers auditeurs d'Europe 1, pour vous permettre de continuer d'aller au restaurant sans casser la tirelire. Alors Emmanuel, vous qui êtes un professionnel de la profession, comme disait Godard, on vous écoute.
Ah, il y a beaucoup de techniques, oui. La première est vraie, il faut jouer avec son temps et effectivement, vous savez, les réservations via les sites internet ou via des applications. Là, c'est vrai que souvent, vous pouvez profiter de réductions. Ensuite, lorsque vous allez au restaurant, essayez de plus en plus, je sais que c'est pas facile, si on y va au déjeuner et si on a encore plus de temps en semaine, alors là, vous allez pouvoir généralement profiter de ce qu'on appelle les menus d'appel, qui ne sont pas du tout honteux, mais où le chef va faire un effort sur les prix. Ensuite, il y a quand même une chaîne dont on aime à parler ici et qui existe et qui revient de plus en plus, ce qui est là encore symptomatique justement d'un problème du restaurant et du prix au restaurant, ce sont les routiers.
On va faire une émission spéciale routier bientôt parce qu'il y a des découvertes incroyables.
Alors, il y en a plus beaucoup, de moins en moins,
mais il y en a quand même qui résistent.
Et puis, en tout cas, l'association et le guide qui va avec, sur internet ou papier.
Le relais routier,
exactement, est en train de remonter en puissance. Et là, vous êtes resté dans ce qu'on appelait l'auberge, en fait, du bord de route.
Exactement.
Avec ce qui souvent existait aussi, c'était ce qu'on appelait le menu ouvrier. Mais ce menu ouvrier qui était partagé aussi bien sur la route des vacances par le bourgeois que par le populo, et puis le reste de l'année. Et là, on a souvent une cuisine maison, une cuisine familiale, une cuisine bourgeoise, une quinzaine d'euros. C'est vraiment une chaîne. On parlait beaucoup de Michelin, on parle beaucoup du fooding. Eh bien, on va peut-être militer en ce moment pour une chaîne comme les restos routiers qui, en plus, nous permettent de sauver un peu le paysage gourmand et gastronomique du restaurant de province et de campagne.
Et on n'est pas obligé d'avoir un 38 tonnes pour y aller. Vous n'avez plus votre Smirmorgh, vous, par exemple.
Exactement,
vous
ça fait longtemps que mon
vous allez en voiture
cul.
Électrique, maintenant.
Exactement. Mais ce qu'il y a d'intéressant, là aussi, c'est que, justement, ces routiers, pour avoir le droit d'être un resto routier, ils devaient avoir un grand espace de parking. Donc, en plus, tu peux garer ta voiture facilement.
Magnifique. Et une dernière astuce, je crois, c'est les écoles hôtelières aussi.
Plus de 100 lycées hôteliers en France et à chaque fois, pour la plupart, un restaurant d'application. Et un restaurant d'application, alors vous allez sur les sites des écoles, qui est ouvert pas forcément tous les déjeuners, tous les dîners, mais alors là, les prix défient toute concurrence. Et la différence, comme vous assistez à des jeunes qui apprennent leur métier, ils sont cornaqués par leurs professeurs, mais ils ont une exigence de résultat dans le service, dans l'ambiance et puis dans la cuisine. Donc on a souvent des beaux produits, une cuisine très traditionnelle avec beaucoup de sauces, des produits et des plats qu'on ne voit plus. Et puis un service, croyez-moi, il y a quelques Michelin qui auraient du mal à suivre.
C'était les astuces d'Emmanuel Rubin que vous pouvez retrouver en vous abonnant et bien entendu à la newsletter à table. Ça se passe sur europe1.fr et c'est gratis. On ne dit plus assez ce mot, gratis. Et vous Ophélie, pour le vin, quels sont vos trucs pour faire baisser le montant de l'addition alors?
C'est compliqué parce que le vin, c'est là-dessus que la plupart des restaurants font leur marge. Hein. Je rappelle que généralement, entre le prix auquel ils l'achètent, alors ils ont des tarifs moins chers que nous, hein, mais, et le prix auquel ils le proposent sur la carte, on est généralement sur une bascule de x3. Alors quand vous trouvez des restaurants qui font une marge x2, x2,5, vous êtes très content.
Faut y aller, oui.
Quand vous êtes à Paris, il est pas rare que je trouve du x6, voire x8 pour certains établissements qui misent tellement sur l'image qu'ils vont se refaire la cerise sur le vin. Donc là, c'est catastrophique. Le problème, alors il y a des applis qui existent effectivement pour comparer. Vous rentrez de toute façon le nom du vin sur Internet et très vite sur Google, vous aurez les prix
c'est
de
vrai,
la bouteille.
Je ça vois vous plein de gens le faire au restaurant. Ça
le souci, c'est qu'une fois que vous êtes dans le restaurant, vous n'allez pas partir du restaurant parce que vous trouvez
donc
pas
tu
votre...
Tu peux le faire un peu avant et surtout tant mieux parce que ça va démasquer aussi les restaurants.
Oui, alors il y a aussi évidemment la technique du vin au verre. Le vin au verre c'est très pratique quand on n'a pas envie de beaucoup boire, mais il faut savoir que
moi,
là aussi
ça,
la marge est terrible.
Je sais, oui.
Donc
elle
si
est
vous êtes 6,
c'est le prix de la bouteille.
Si vous êtes 6, si vous êtes 4 et que vous avez prévu de boire plus d'un verre de vin, si vous êtes 6 et que vous ne voulez boire qu'un verre, prenez une bouteille, ça vous coûtera beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Et puis on joue évidemment sur les noms, on évite les étiquettes trop connues et surtout les appellations très connu. On ne prend jamais le vin le moins cher d'une appellation connue. On prend à l'inverse le vin le plus cher de l'appellation la plus modeste, voire IGP, indication géographique protégée, voire même vin de France. Si vous avez un vin de France qui est proposé au même prix qu'un Bourgogne ou un Médoc, vous pouvez être sûr que vous êtes dans l'excellence du vigneron. Et donc, il vaut mieux effectivement viser ça.
Eh ben, merci Ophélie Neyman, qu'on peut lire également dans Le Monde. Alors, on le disait, les coûts augmentent aussi pour les restaurateurs. Ils font face à une baisse de la fréquentation de leurs établissements. Alors, pour s'y retrouver, certains revoient leur menu sans augmenter leur prix. C'est le cas de Baptiste Renoir, chef une étoile du restaurant Ocre à Rueil-Malmaison en région parisienne, au micro européen de Marion Sauveur. On l'écoute.
En 2023, on a fait moins 20% de fréquentation. Cependant, on fait quand même le même chiffre d'affaires, donc on s'en sort pas mal. Il y a une vraie réflexion à faire et nous, cette réflexion, on la pousse en essayant d'autoproduire pas mal de choses. On fait des fermentations, on évite le gaspillage, on a arrêté les selles d'agneau, les filets de bœuf et tout, et on fait de la langue et de la tête de veau. Donc on essaye de réduire le coût matière tout en proposant toujours la même découverte et même une meilleure découverte puisque finalement, on propose des choses qui sont différentes.
Eh ben c'est ce qu'on cherche aussi en allant au restaurant. Merci Baptiste Renoir. Une étoile au restaurant Ocre à Rueil-Malmaison. Et c'est vrai que c'est ce qu'on attend de la part d'un restaurateur aussi, c'est de faire des découvertes et qui nous embarque dans son univers et dans sa cuisine avec des produits vers lesquels on n'irait pas forcément.
Exactement. Et puis je crois qu'il y a eu une espèce de folie, de passion retrouvée, tant mieux, de la gastronomie et des chefs ces dernières années. À partir d'ailleurs l'arrivée un peu de Top Chef, ils ont tous pris un melon énorme et tous veulent travailler absolument les beaux produits.
Ah, genre,
les
produits des produits nobles.
C'était véritablement la vérité des très grands restaurants.
Il y avait du turbo partout.
Voilà, mais dans les très grands restaurants, quand tu vas casser la tirelire pour un 2, un 3 étoiles, une table de palace, tu attends des produits nobles. Dans le restaurant de l'auberge de campagne, dans le bistrot parisien, dans le bistrot de la ville, on attend des produits plus simples.
Eh ben exactement, on n'arrête pas de le dire à cette table. Merci Ophélie, merci Emmanuel, c'est l'heure de jouer avec notre bruit de cuisine. Alors écoutez bien, on vous offre aujourd'hui un tire-bouchon électronique rechargeable, intelligent, 4 en 1. De la marque Climadif, marque reconnue, hein, vous le savez, pour la qualité de ses caves à vin. Avec ce tire-bouchon, vous pouvez retirer sans effort tout type de bouchon, servir avec le bec verseur aérateur et conserver votre bouteille en utilisant sa pompe à vide d'air intégrée. Je vous dis, c'est un 4x4. Avec Climadif, les amateurs de grands vins pourront déguster pleinement leurs bouteilles et faire de belles dégustations. Et nous sommes avec Astrid au téléphone. Bonjour Astrid.
Bonjour Laurent, bonjour les bons vivants.
Bonjour.
Vous faites quoi dans la vie ?
Je suis enseignante.
Oh, vous enseignez quoi ?
Pour les primaires.
Ah,
pour les
très beau métier, ah là là, les souvenirs des maîtresses, des institutrices, voilà, ça c'est très important. Vous appelez d'où ?
J'appelle de Bretagne, j'appelle de Vannes.
Alors qu'est-ce qu'on mange chez vous ce midi dans le Morbihan ?
Eh ben, retour de marché et j'ai pris des Saint-Jacques.
Ah, ben voilà. Une valeur
très
sûre.
Très simplement.
Voilà, et juste snacker aller-retour à la poêle ?
Avec un petit peu de crème et du riz, et c'est très bien.
Eh ben voilà, et là on est heureux. Écoutons le bruit de cuisine, chère Astrid. C'est un bruit particulier. Pour gagner un tire-bouchon révolutionnaire, je peux vous le dire.
Alors, je pensais à un bruit de batteur électrique à de l'huile versée sur un batteur pour faire une mayonnaise.
Ah là là, c'est...
Par exemple.
C'est terrible parce qu'on n'est pas loin de ça, mais c'est beaucoup plus précis que ça. Et j'ai parlé de cet objet sans le savoir la semaine dernière, pour tout vous dire. Ça avait un rapport avec le thé. Je peux pas vous offrir le cadeau, malheureusement, Astrid, mais je vous envoie un an d'abonnement à ma revue Les Petits Plats, et avec plein de belles recettes pour Pâques, justement. Vous verrez, il y a des recettes autour des œufs, autour de l'agneau et autour des premières asperges. Je vous envoie un abonnement d'un an pour vous remercier de votre fidélité, chère Astrid.
C'est super. Merci beaucoup.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi avec notre Miss Glouglou internationale, Ophélie Neyman, que vous pouvez lire dans Le Monde, et notre journaliste gastronomique Emmanuel Rubin. Et ça y est, c'est l'heure de parler du sujet qui fâche, chers auditeurs. Aujourd'hui, c'est le sucre. L'Agence nationale de sécurité sanitaire et alimentaire a publié cette semaine une étude sur la présence du sucre dans les aliments salés. Ophélie, Emmanuel, vous avez une idée de la quantité de sucre présente dans certains produits salés ?
En pourcentage ?
Allez, combien de morceaux de sucre dans un paquet de chips, par exemple ?
4.
Ophélie ?
2.
14.
Non,
14 morceaux de sucre dans un paquet de chips, ce qui équivaut à 3 morceaux rien que dans une bonne poignée. Vous imaginez ?
Oh là là !
Dans une portion de hachis parmentier industriel, combien de morceaux de sucre ?
Bah là, je vais y aller, 17.
Bah non, 2, 3, c'est déjà énorme.
Dans un filet de saumon avec de la purée de brocoli industrielle.
2, 3, là.
5, voilà, vous avez compris.
Morceaux de sucre.
5 morceaux de sucre.
Moi qui pensais sucré trop, quoi. Quand je mets vraiment l'équivalent d'une demi-cuillerée à café avec mes petits pois, bah, ou tiens, dans une sauce quand j'élabore une sauce tomate.
Eh ben oui. Ben voilà.
On est à plusieurs morceaux.
C'est énorme et ça fait du bruit cette semaine. Et pour en parler avec nous, Alexandra Bischoff, journaliste à la table des bons vivants. Bonjour Alexandra.
Bonjour.
C'est vrai qu'il a fait du bruit ce rapport. Vous nous remettez un petit peu l'état des lieux en tête ?
Alors, bien sûr. Alors bon, ce qui est quand même incroyable, c'est de voir qu'autour de la table, on s'en étonne encore. Alors, l'ANSES a mené l'enquête et a étudié la composition de plus de 54 000 boissons et aliments transformés sur le marché. Et tenez-vous bien, 77 des produits contiennent au moins un ingrédient sucrant ou vecteur de goût sucré. Saccharose, sucre, sirop de glucose, fructose et j'en passe. Rien que le saccharose, c'est donc le sucre de table, il est retrouvé dans 58 produits, c'est étudié.
C'est dingue. C'est vraiment une drogue qui est mise à notre insu dans les produits. Vous faites attention, Ophélie, vous, par
ah,
exemple.
C'est un poison, là.
Ben, je regarde les étiquettes après. Effectivement, j'achète pas énormément d'aliments transformés. En revanche, les boissons. C'est vrai que moi, j'aime bien les boissons un petit peu artisanales. Les thés, par exemple, un thé glacé. J'ai énormément de mal à trouver un thé froid non sucré. C'est rarissime.
La limonade, c'est délicieux, mais c'est vrai que c'est, moi j'aime
c'est
bien
toujours
une
sucré.
Bonne limonade, mais c'est sucré. Alors, c'est encore comme tout, il faut faire attention. Mais ce qui est insupportable, c'est quand ils sont mis à notre insu dans les préparations, Alexandra.
Eh bien oui, parce que si vous tenez à votre santé, attention. Car selon l'OMS, il ne faut pas consommer plus de 6 morceaux de sucre par jour. L'ANSES recommande de ne pas consommer plus de 100 grammes de sucre totaux par jour, donc hors lactose et galactose. Pour les adultes, pas plus de 75 grammes par jour pour les enfants de 8 à 12 ans et 60 grammes pour les 4 à 7 ans.
Et ben voilà, c'était bien de nous rafraîchir la mémoire. Et avec ce joli accent corse, ça fait du bien aussi.
C'était bien, tout ce qu'il y avait de joli, c'était l'accent. Hein. Parce que pour le reste...
Un peu de bonne humeur,
merci, madame,
un peu de soleil.
Voilà, donc attention au sucre, on le redit encore une fois, attention aux produits ultra transformés. C'est comme tout, pourquoi pas de temps en temps. Moi, c'est ce qui me rend dingue là-dedans, c'est que ce sont surtout les familles les plus modestes, les plus pauvres, qui vont vers ce genre de produits, qui en payent les frais
marketing.
Au niveau santé.
Je rappelle que quand vous regardez la composition d'un plat tout fait, d'un produit transformé, ça va par ordre décroissant. Ce qui apparaît en premier, c'est ce qui est le plus important. Donc si vous avez le sucre qui apparaît en deuxième ou troisième position, ça veut dire que c'est très sucré.
Exactement.
Moi, c'est surtout comme ça que je me repère.
Merci Alexandra.
Bah, merci à vous.
Pour ce malheureusement mauvais constat. Manger, bouger, on n'arrête pas de le dire. Et bien justement, c'est ce qu'on va faire avec vous, Emmanuel Rubin. Vous nous parlez, alors ça j'adore, du grand retour d'un événement qui connut ses années de gloire. Hein, c'est la course des garçons de café parisiens.
Et oui, et retour tout proche, hein, puisque demain, dimanche, à Paris, sur le coup des 11h, sur le parvis de l'hôtel de ville, 200 serveurs et désormais serveuses vont s'élancer. Hein, ils appartiennent tous à la profession, café, brasserie de la capitale, pour disputer cette course. Cette course, elle a longtemps véritablement été une légende. Elle faisait le printemps de Paris, quelque part entre les flonflons du 14 juillet. Puis elle a disparu il y a une quinzaine d'années parce qu'il y avait un mauvais marketing autour. Demain, ils sont donc de retour sur Macadam et à travers, dans la foulée, dans dans leur foulée, c'est toute une histoire qui va se rappeler à nos mémoires.
J'adore ça. Alors racontez-nous, vous racontez bien les histoires. Il était une fois ?
Il était une fois. 1914. C'est sûrement la seule bonne nouvelle de cette année-là. Bah, et tiens. Donc cette année-là, selon Laurent Bille, on dit que c'est le 13 officiel historien de la Bistrotte. Il a écrit beaucoup de livres à ce propos. Et il date donc l'invention de la course des garçons de café de Paris en 14. Ouais. Mais le nom exact, cette course des garçons de café de Paris, on la doit à un journal qui s'appelle L'Auvergnat de Paris. Il existe toujours ce journal, c'est l'organe fétiche des bougnats aveyronnais de la capitale. C'est eux qui ont l'idée de dire on va faire la course des garçons de café. Et rien que ce mot a été génial, parce que du coup la course était vraiment un grand rendez-vous parisien, mais elle a essaimé à travers toutes les campagnes, toutes les provinces et dans le monde entier. Il y a aujourd'hui des courses
oui,
des
garçons. Oui, à Hong Kong, j'avais
à
vu
Hong
moi.
À Hong Kong, à Tokyo,
Washington,
à Bruxelles,
je crois, ouais.
À Washington, à Tel Aviv. Il y a même un vainqueur qui, le lendemain de sa victoire, était simple serveur, va devenir manager.
Magnifique.
Vous voyez, ça peut vous amener loin et longtemps.
En quelques mots, demain, la course, elle va être fidèle à ses origines ?
Pas tout à fait. D'abord parce qu'à l'époque, il n'y a que des hommes.
Oui.
Aujourd'hui, désormais, il y a aussi des femmes.
Ah bah tant mieux.
Ensuite, à l'époque, lorsqu'on jongle du plateau, parce qu'il ne faut pas courir, il faut marcher, c'est de la course à pied, on portait plutôt une bouteille de vin, de la bière, un apéro. Aujourd'hui, c'est de l'eau. Une bouteille d'eau et de l'eau de Paris, puisque l'eau de Paris est sponsor de l'événement. Pourquoi pas ? Tout cela est fait par contre et en revanche, exactement comme à l'époque, pour promouvoir le métier. À la fois par ces garçons, c'est un métier qui est quand même un métier où tu peux bien gagner, tu travailles bien, dur, mais c'est un métier qui vaut le coup, donc on essaye de le promotionner, et à travers ces garçons, on promotionne aussi le paysage parisien de ces bistrots.
Il faut être du métier pour participer ?
Obligatoire.
C'est ça, il faut être garçon de café, oui.
Et ça, c'est mon petit souci, parce que moi, j'aimerais réhabiliter une autre course, moins connue, mais qui fut aussi une légende, elle, pendant 30 ans, des années 80 aux années 90. Elle s'appelait le marathon des leveurs de coudes. C'était à Paris. Ça se passait dans ce qu'on appelle la rue de la soif, de la rive gauche, Saint-Germain-des-Prés. Alors, il y avait tout le monde, les blondins, les boudards, toutes les légendes, les saints buveurs qui faisaient Paris. Il fallait, durant un marathon, occuper 42 comptoirs parisiens. Et à chaque fois que vous buviez un coup, personne
la course des leveurs de coudes, on verra si elle revient celle-ci, on en parlera.
42 verres de vin, il faut y aller.
Merci Emmanuel Rubin. Oui, avec modération, bien entendu, chers auditeurs.
C'était des tasses de vin, c'était pas des verres entiers.
Oui, c'était des tasses de vin, des petites coupelles, là, c'est ça.
Ça, c'était officiel.
Le secret, c'est vraiment d'avoir de la somme, vraiment, à la température, vraiment, qu'il faut, quoi.
Moi, j'adore la pasta cacio e pepe.
Europe 1, 11h30, la table des bons vivants.
Du chou farci.
Ah, oh, c'est beau ça. Quelle farce.
Je la fais maison, donc je prends de la chair à saucisse, du jambon, des œufs, du pain, de l'ail, du persil.
Laurent Mariotte.
Mais oui, vive le fait maison, faites la cuisine, chers auditeurs d'Europe 1. Heureux de vous retrouver à table, vous le savez, comme tous les samedis de 11h à midi et demi sur Europe 1, toujours avec Miss Glouglou, Ophélie Neyman que vous pouvez lire dans Le Monde, et notre journaliste gastronomique du Figaro, Emmanuel Rubin. Et ça y est, c'est l'heure d'accueillir notre invitée. Comédienne, chanteuse et romancière, c'est une artiste à part entière. En ce moment, elle lit les lettres de Frida Kahlo à La Scala, un beau théâtre parisien. D'origine portugaise, elle aime le vin, les légumes, les oursins et la sauce tomate. Joyeuse et pétillante comme le printemps, nous sommes heureux de la recevoir. C'est Elena Noguera. Bonjour Elena.
Bonjour Laurent, merci de m'accueillir.
Bonjour à vous. Bonjour. Quel est votre rapport à la cuisine, Elena ? Quelle place tient la cuisine dans votre vie ?
Alors la cuisine, il faut qu'elle soit rapide quand c'est moi qui la fais.
Oui.
Faut que je la fasse, faut que je la fasse vite, que ça me prenne peu de temps. Je suis pas une fana des courses, je suis pas une fana du marché, mais j'aime manger des choses qui me plaisent à moi. Donc je fais beaucoup de salades crues, je mange beaucoup cru, beaucoup de légumes, des fruits, des yaourts végétaux. Pour certains, c'est boring.
Vous êtes d'humeur végétarienne, vous voulez dire ?
Je suis d'humeur végétarienne, mais je suis pas radicale.
Très bien.
Donc, si je suis invitée chez vous et que vous me faites un plat de viande, eh bien, je me repose sur...
Une tête de veau sauce gribiche, on la partagera ensemble.
Tête de veau, ça va être compliqué, mais si c'est une viande plus classique, je m'appuie sur ça pour en manger.
Oui, vous êtes flexitarienne, en fait.
C'est ça, je suis très flexible dans la vie aussi.
Quel est votre goût de la semaine, Elena ?
Alors, maintenant, je me suis mis au prosecco, c'est ma découverte, c'est le prosecco. Parce que
le pétillant italien qui permet de faire du spritz, par exemple.
C'est ça, et je le bois pur, Parce que c'est pas très alcoolisé quand même.
C'est vrai.
Ça pétille comme du champagne. On n'est pas sous vite, mais il y a la petite ivresse qu'on aime bien. Et donc, c'est ma nouvelle découverte.
Oui, je disais, vous êtes pétillante comme le printemps et comme,
et ben voilà,
comme
le Prosecco.
Alors, vous lisez actuellement la correspondance de Frida Kahlo,
oui.
Une artiste libre et engagée hein, à la Scala à Paris. Très beau théâtre près des grands boulevards. Faut le rappeler, Frida Kahlo, grande artiste mexicaine. Probablement l'artiste mexicaine la plus populaire dans le monde, c'était une peintre.
Oui, hein, elle était peintre.
Mais elle écrivait aussi, c'est ce qu'on découvre avec vous.
Elle a écrit beaucoup de correspondances, donc moi je lis surtout les correspondances. Il y a quelques aussi poèmes qui ont été trouvés dans son journal intime. Mais moi ce que je lis c'est vraiment assez factuel, c'est pas une littérature à proprement parler.
Oui, c'est la correspondance.
C'est sa correspondance, donc ça permet à travers des lettres de se faire une idée, un portrait de cette femme.
Qu'est-ce qui vous plaît justement dans ces correspondances? Qu'est-ce que vous aimez mettre en avant et défendre?
Moi, j'ai pris surtout un axe, donc voir à quel point cette femme se dépasse pour trouver le bonheur à tout prix. Donc, à travers, elle a un accident qui l'immobilise, qui lui...
Depuis l'âge de 6 ans, elle a des problèmes de...
À 6 ans, elle a la poliomyélite, donc elle est déjà un peu boiteuse. Après, à 16 ans, elle a un accident de tram et elle est transpercée par une barre de fer et donc elle est alitée longtemps. Donc, en 14 ans, elle va subir 14 opérations de la colonne vertébrale. Donc, elle est souvent alitée. En dolorie, elle a un pied qui a été broyé, donc un bras qui est très presque paralysé. Mais malgré ça, elle va quand même trouver matière à être heureuse, à s'exprimer. Elle va devenir peintre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que c'est une femme qui...
Dites pas tout, on va aller à la Scala, justement.
Ah oui,
dimanche et lundi à la Scala à Paris. Et puis pour l'heure, les amis, c'est l'heure du plat du jour. Je vous présente la chef Philippine Jaillet. Bonjour Philippine.
Bonjour à tous.
Merci d'être à cette table. Votre restaurant est tout nouveau, tout beau. Il s'appelle le Boréal. Vous l'avez ouvert avec votre acolyte de cuisine Charles Neyers en novembre dernier. C'est rue Montcalm, au pied de la butte Montmartre à Paris. Pourquoi ça s'appelle le Boréal d'ailleurs ?
Alors déjà parce que c'est l'adresse la plus au nord des autres restaurants de Charles, mon binôme.
Ah joli !
Et c'est aussi à l'angle de la rue du Pôle Nord.
Ah bah
du
voilà.
Du coup ça fonctionne
énormément. Ça prend tout son sens. Vous avez commencé par l'école Ferrandi avec un CAP pâtisserie. On va en avoir la preuve de ce CAP pâtisserie avec ce plat du jour qui est magnifique. Vous êtes passé par le restaurant Taïwan, vous avez appris vos gammes chez Pierre Hermé et vous avez décidé d'adopter l'esprit bistrot plutôt que gastro. Hein, c'est ce qu'on peut dire pour résumer votre cuisine. Hein.
Pour utiliser un mot un peu du moment, ce serait un bistronomique.
Exactement. Alors, qu'est-ce que vous avez préparé aujourd'hui pour Elena Noguera, chère Philippine?
Alors, aujourd'hui, ça tombe bien parce que c'est un plat végétarien.
Oui.
Du coup, c'est un pitivier de céleri rave.
Ah
wow.
Avec la pâte feuilletée du frère de Charles qui a la boulangerie Bulle dans le 19e. Accompagné d'un jus végétal 100% parure de légumes qui sont réduites et on l'assaisonne avec un vinaigre de riz noir. Et autour du céleri, vous avez une duxelle de champignons et une feuille de chou.
Donc des champignons hachés avec un petit peu de chou tout autour. On revient sur l'histoire du pitivier peut-être, monsieur Rubin.
Ah oui, alors finalement c'est un plat de boulanger,
oui.
Plus qu'un plat de pâtissier. Alors il est natif du Loiret, plus particulièrement d'une région qui s'appelle le Pitivéret. Alors c'est un cousin de la Gadette des Rois puisqu'on est dans la pâte feuilletée, mais ce qui fait sa richesse c'est qu'en fait on va le travailler du côté du registre salé.
C'est ça.
Et c'est ce qui fait la beauté du pitivier qui revient très fort aujourd'hui dans les cuisines. Alors en plus, c'est vrai qu'il appelle toutes les variations puisque on le fourre de ce que l'on veut. Et là, pourquoi pas du végétal?
Oui, un beau céleri rave, on est sur la fin des légumes racines avant les légumes nouveaux qui débarquent, donc c'est parfait. Qu'est-ce que vous en pensez, Elena?
C'est magnifique, c'est délicieux. J'adore ce qu'il y a autour, là, ce sont les champignons, c'est
oui.
ça?
Et la feuille de chou, en
et
fait.
Et la feuille de chou, tout est magnifique, la petite purée aussi.
Et là, quoi, la petite purée?
C'est un crémeux de céleri.
Voilà, qu'on retrouve donc
délicieux.
En deux textures,
exactement.
C'est ça qui est génial. Hein. Ça vous plaît, Ophélie Neyman?
Beaucoup, et je suis assez émerveillée, bluffée par la sauce.
Exactement.
Parce que
oui.
La sauce, on pense vraiment que c'est une réduction qui est faite avec de la viande, avec des carcasses,
de viande,
pas
ouais.
du tout.
Mais alors comment on fait? On prend d'abord un céleri, un vrai céleri qu'on a épluché, après on met la duxelle de champignon, après la feuille de chou, on enrobe tout ça de la pâte feuilletée et on va au four.
Exactement.
Et tout cuit d'un coup.
Non, le céleri, pardon, il est cuit.
Il est blanchi quand même avant, ou pas?
Il est rôti dans l'aluminium avec du beurre, du thym.
Voilà, parce qu'il est vraiment.
Il est fondant.
Il est fondant, plein de tendreté. Il infuse en plus les parfums des champignons, donc c'est très bon, mais je me demandais comment il arrivait à cuire.
Combien de temps cuit en robe des champs comme ça?
Il est cuit 25-30 minutes en robe des champs et ensuite 25 minutes dans la pâte feuilletée.
Avec le feuilletage, ouais. Et autour vous aurez mis cette duxelle de champignons. Hein. Donc c'est compliqué pour faire tenir tout le monde autour du feuilleté. C'est quoi la technique? Parce que c'est vrai que voilà, il y a un petit tour de main, j'imagine.
Alors la meilleure technique, c'est en effet de cuire tout en avance et que tous les éléments soient froids pour le montage.
Ah voilà.
Pour éviter aussi que le feuilletage fonde sur les ingrédients.
Vous avez raison, il faut le redire, ça. Quand on travaille une pâte feuilletée qu'on veut garnir, on met les choses froides à l'intérieur, sinon ça va détremper, ça va faire fondre la pâte feuilletée, elle ne va pas adhérer, il y aura des trous et c'est compliqué.
Hein. Exactement.
Bah, ça devient moche.
Bah là, c'est une œuvre d'art, vous pouvez le voir sur europe1.fr.
Ah oui, et, c'est une œuvre d'art.
Et le céleri, c'est un produit que vous aimez, par exemple?
Le céleri, je l'utilise très peu, j'en ai acheté un il y a une semaine, il est resté dans le frigo très longtemps parce que je ne sais pas quoi en faire.
Bah, on va vous offrir une pâte feuilletée, vous le ferez en rentrant. C'est vrai qu'on peut le travailler en rémoulade, bien sûr. Le céleri, c'est la fin de la saison hein, des légumes racines. On en trouve encore pendant un petit moment sur nos étals. Et on peut le faire en velouté aussi avec de la moutarde.
Ouais,
c'est
mal.
Délicieux. Là, pour le coup, c'est simple.
Ça, je peux.
Vous le faites cuire avec lait, un petit peu de sel. Vous mixez tout ça, le lait pour lui permettre de garder sa belle couleur blanche. Et vous le mixez avec de la moutarde. Ça, c'est un truc d'Alain Passard. Et c'est délicieux, l'accord moutarde-céleri. Vous validez, Philippine?
Je valide, je vais essayer. Mais...
Moi, je suis vraiment adepte de la potée. Hein, le céleri, vous le coupez en morceaux, vous mettez un peu d'eau, vous mettez plein d'aromates dedans, un peu de carottes, un peu d'oignons, hop, ça cuit une heure et puis c'est délicieux.
Et puis vous nous direz ce qu'on boit avec ce pitivier de céleri rave dans un instant, chère Ophélie, mais avant, c'est l'heure de jouer avec notre bruit de cuisine. Vous le savez, nous vous offrons un tire-bouchon électronique rechargeable, intelligent, 4 en 1 de la marque Climadif, marque reconnue pour la qualité de ses caves à vin. Et nous sommes avec Corinne au téléphone. Bonjour Corinne.
Bonjour Laurent, bonjour les bons vivants.
Bonjour Corinne. Bonjour.
Comment ça va bien?
Bonjour.
Ce samedi midi?
Oh bah très bien, je vous remercie.
Vous
très
nous appelez
bien.
D'où?
Je vous appelle de la région de Clermont-Ferrand, dans le parc du Livradois-Forez.
Oh que c'est beau, alors là on mange bien aussi là-bas. Qu'est-ce qu'on va manger chez vous ce samedi midi par exemple, du côté de Clermont?
Je vais faire quelque chose de tout simple, une petite fondue de poireaux avec un petit saumon en papillote avec
quand même.
Mais c'est fou, on a toujours peur de dire qu'on fait des choses simples, mais c'est délicieux, c'est pas simple, c'est très bon, et voilà, il faut vraiment, c'est de la vraie cuisine que vous faites. On écoute le bruit de cuisine, chère Corinne.
Merci.
Alors, qu'est-ce que c'est?
Moi, j'ai pensé à quelque chose qui sert à homogénéiser. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle un homogénéisateur, mais un petit peu pour lier, par exemple, votre petite mayonnaise du Vitello Tonnato.
Ah, par exemple, ou alors le thé vert qu'on voudrait faire latter en mettant, par exemple, quelque chose de crémeux à l'intérieur. Comme un mousseur à lait, vous voulez dire?
Pour mousser, voilà, pour faire mousser, pour avoir une onctuosité et une mousse.
C'est gagné, Corinne.
Allez, bravo, Corinne.
C'est gagné.
Oh, super.
C'est gagné. Vous avez
Merci.
Gagné. Alors, écoutez bien, je vous dis tout ce que fait ce tire-bouchon. Hein. Il est électronique, rechargeable de la marque Climadif. Vous pourrez retirer sans effort tout type de bouchon, servir avec le bec verseur aérateur et conserver votre bouteille en utilisant sa pompe à vide d'air intégrée. Il remplit la déclaration d'impôt.
Il remplit la déclaration d'impôt.
Il cure les sabots. Il fait la vaisselle. Il emmène les gosses à l'école.
Il vous fait des massages.
Il est dingue, ce tire-bouchon.
C'est formidable. Un grand merci à vous.
Merci, on aura un autre bruit de cuisine la semaine prochaine. Merci Corinne et merci pour votre fidélité.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
En place toujours avec Elena Noguera et notre chef du jour, Philippine Jaillet du restaurant Boréal à Paris, au pied de la butte Montmartre. On se régale avec ce pitivier de céleri rave, une duxelle de champignons, une feuille de chou et cette sauce qui est corsée. Merci pour cette belle cuisine, Philippine Jaillet. Nous sommes donc, je vous le disais, avec Elena Noguera qu'on peut aller applaudir dans Frida Kahlo au théâtre de la Scala à Paris jusqu'au 30 juin. C'est les dimanches, les lundis. Frida Kahlo, on en parlait, donc grand artiste peintre qui a eu de très très belles correspondances. On connaît la peintre emblématique, je disais Elena, mais moins l'amoureuse, moins la femme engagée et sans concession, multiples facettes, hein, comme vous d'ailleurs.
Multiples facettes, absolument, merci. Je dirais plus dans cette envie de trouver le bonheur quoi qu'il arrive, c'est-à-dire de ne pas se laisser accabler par les difficultés.
Donc, pas subir.
Ne pas subir, donc je peux me reconnaître en ça, bien que j'ai un destin moins tragique évidemment. Donc quand elle se plaint, tout de suite après, elle fait une pirouette.
Elle va de l'avant.
Elle va de l'avant.
Toujours.
Et ouais.
Quel est votre rapport au vin, tiens, Elena?
Alors, mon rapport au vin, il est sans connaissance, pas du tout scientifique. Je ne les connais pas, je ne les reconnais pas. Je les aime, je peux les apprécier.
C'est ça, vous aimez ou vous aimez pas, quoi.
Voilà, et j'aime la petite ivresse, en fait. J'aime bien...
Comme le Prosecco.
C'est ça, et j'aime plutôt les blancs.
Alors, Ophélie Neyman, justement, ça tombe bien. On vous lit dans Le Monde, vous nous parlez de vin toutes les semaines, tous les week-ends. Et ici, vous avez souhaité nous parler d'un vin blanc un peu atypique. Vous m'avez dit, je vous cite, « C'est un blanc, mais c'est plus compliqué que ça. » Qu'est-ce que c'est que ce mystère, alors ?
Ben, quand j'ai su qu'on recevait Elena Noguera, je me suis dit, voilà une femme qui aime le vin blanc, ça je le savais,
oui.
Mais qui aime aussi les pas de côté, ce qui est audacieux, ce qui est inattendu. Alors, j'ai eu envie de le tenter avec vous. Est-ce que vous avez déjà entendu l'expression blanc de noir ?
Oui. Ouais, tout à
fait. Bravo !
Pour les champagnes.
Oui. Exactement, c'est une expression qu'on entend dans le champagne. Alors, on entend plus souvent d'ailleurs blanc de blanc. Alors, c'est quoi un blanc de blanc ? C'est un champagne blanc qui est produit uniquement avec des raisins blancs. En l'occurrence, souvent du chardonnay. Mais il existe aussi des champagnes donc blancs de noir, c'est-à-dire un champagne blanc produit avec des raisins noirs. En l'occurrence, ici, pinot noir et meunier. Alors, c'est pas rare, hein, tous les champagnes ont souvent une partie de raisins noirs dans leur composition. La nouveauté ici, c'est qu'on voit apparaître des vins hors champagne qui sont des blancs de noir.
Alors attendez, il faut que vous nous expliquiez. Si on presse du raisin noir, on obtient du vin rouge, c'est logique. Donc quoi, il faut le décolorer pour qu'il devienne blanc ? Comment ça se passe ?
Pas du tout. On va reprendre les bases.
Expliquez-nous. Je joue.
Faut enlever la peau. Hein,
on va reprendre
voilà,
les bases.
Voilà,
manière
France,
de nous humilier.
J'aime ça. En France, tous les raisins noirs autorisés pour produire du vin en appellation ont un jus qui est en fait incolore. Ce qui va donner la couleur au jus, c'est la peau, comme le dit Elena Noguera. Merci. Donc pour obtenir du vin rouge, on foule le raisin, on laisse macérer le jus avec la peau.
On foule, ça veut dire qu'on l'écrase, hein,
c'est
on
ça.
Le piétine.
On ouvre en tout cas les baies pour que le jus puisse être en contact avec la peau et que la peau colore le jus. Donc pour obtenir du vin blanc à partir de raisins noirs, on presse directement sans faire macérer les jus avec la peau.
Alors je comprends la technique, mais quel est l'intérêt ? Pourquoi ne pas faire tout simplement du vin blanc avec des raisins blancs ?
Eh bien, il y a un très grand intérêt, c'est la crise viticole et il faut y faire face. Les consommateurs boivent de moins en moins de rouge, ça fait plusieurs années qu'on le constate. En revanche, le blanc, lui, se porte plutôt bien. Mais voilà, en viticulture...
Une question de taux d'alcool peut-être, hein, parce que les rouges sont de plus en plus élevés.
Peut-être, et puis d'alimentation, parce qu'on mange de moins en moins de viande, il y a plusieurs raisons. Or, en viticulture, on ne peut pas arracher les vignes pour en replanter d'autres du jour au lendemain. Il faut plusieurs années quand même pour qu'elles puissent donner des bons raisins. Alors une solution justement, c'est le temps de la transition, de pouvoir proposer du vin blanc à partir de ces vignes, de cépages noirs. Comme ça, il faut un peu de technique, mais c'est une solution qui permet de s'adapter rapidement à la demande et de trouver de nouveaux débouchés, voire d'éviter la faillite pour certains vignobles.
Et ça existe, c'est pas seulement de la théorie ça, hein.
Alors, ça reste encore très marginal. Hein. Très peu de domaines ont osé se lancer, mais on en parle. Déjà, on y pense. Et voilà ce que je vous présente. Le château de Paloumet, dans le Médoc, qui a tenté le coup. Donc, ce sont des cépages très médocains. 2/3 de
très
Cabernet
bon
Sauvignon, 1/3 de Merlot, hein, ce qu'on utilise pour faire du vin rouge. Et il vient de mettre en bouteille juste pour nous sa première cuvée. Elle est bio, elle coûte 14 euros. Et déjà, elle a un parfum d'aventure. Et j'espère qu'elle vous plaira plus que l'histoire.
Très agréable. C'est lui.
Oui, c'est lui.
Très
c'est
agréable.
Léger. C'est marrant parce qu'on m'a dit arôme d'agrumes. Moi, je suis pas d'accord. Mais je trouve qu'il y a des arômes de fruits un peu plus mêlés qu'on dépasse.
Fleur blanche, un peu, moi,
oui,
je dirais un peu.
C'est ça.
Philippine, qu'est-ce que vous en pensez du restaurant Boréal ?
Il est très agréable. Déjà, j'adore la couleur.
Elle est très, très légère.
Très,
hein,
très pure.
Quasiment
incolore.
Oui.
Quasiment transparent. Et il se boit très facilement.
Voilà, c'est vraiment un vin d'été. Il est très, très léger. Il n'y a pas énormément de longueur.
Merci, Ophélie Neyman. Et on vous lit dans Le Monde. Elena Noguera, c'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants.
Allez.
Juste avant, j'ai oublié de le dire, mais il y a une nouvelle série sur M6 aussi.
Ah oui,
Brigade
c'est vrai.
Anonyme.
Brigade Anonyme avec Eric Cantona.
Premier épisode, c'est mardi, c'est ça, hein ?
Oui, sur M6, mardi prochain. Eric Cantona, Ariel Mallet, Marilyn Lima et puis Bibi.
Et ben voilà, Bibi.
Myriam Boyer. Bibi, c'est moi.
Ah bon ?
Myriam Boyer.
Alors Bibi, tiens, quel est le goût de votre enfance ?
Alors le goût de mon enfance, c'est la sauce tomate que préparait ma maman. J'ai même dit un jour quand j'étais petite, maman, avant de mourir, il faudra que tu prépares des kilos et des kilos que je puisse congeler et en manger après ta mort. Elle a beaucoup aimé.
Oh, c'est joli ça. Que trouve-t-on toujours dans votre frigo ?
Alors on trouve dans mon frigo beaucoup de graines, hein, comme je disais tout à l'heure, des graines genre graines de son, graines de lin, graines de chia, des yaourts végétaux, des fruits, des légumes, tomates, surtout des tomates.
Frigo healthy. comme
elle
on
fait,
dit.
Elle
du
fait.
Céleri aussi.
Ouais. Votre... du céleri, ouais.
Votre plus beau repas.
Mon plus beau repas, c'est quand la première fois on m'a invité chez Guy Savoie. J'ai adoré, c'est magnifique, c'est de l'art. C'est
On parlait du palmarès du guide Michelin, voilà, ça reste une des grandes tables majestueuses. Votre pire repas.
Ben, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière, je sais pas pourquoi, j'ai fait un repas d'hôpital, j'ai manqué d'inspiration, franchement, j'ai mis des brocolis au four et tout ça, et c'était nul, je devais être dépressive, je ne sais pas, mais c'était...
Ah, ça peut être sympa le brocoli au four, justement, rôti.
Ah ben, c'était nul, était nul, vraiment.
Faut faire des sauces avec ça, faut faire des belles sauces pour les emmener avec du sésame,
c'est
par
ça,
exemple.
Le brocoli cru dans la friteuse, c'est excellent.
Ah oui, bah voilà.
Ça cuit al dente, c'est trop bon.
D'accord,
voilà, sortez la friteuse la prochaine fois.
Je n'ai pas de friteuse, je n'ai jamais une friteuse, mais casserole avec lui.
Bon,
oui,
bah
c'est
ça. Une friteuse. Votre adresse secrète, Elena ?
Mon adresse secrète, alors c'est La Corte. C'est un tout petit restaurant italien qui est dans une petite impasse, je crois, rue du Faubourg Saint-Honoré. Mais alors, je suis incapable de vous dire, elle est tellement secrète que j'y vais à pied. Et par moi-même, par mes propres moyens, PPM. Mais je ne pourrais pas vous dire l'adresse.
À Paris, à la capitale. Et le mot de la fin,
oui,
F-I-M.
L'amour, toujours l'amour.
Bien sûr,
mais
bah
bien
voilà,
sûr.
Ça se dévore l'amour.
Oui, oui.
Merci Elena Noguera.
Merci de m'avoir invité, merci à vous tous.
Frida Kahlo au Théâtre de la Scala à Paris, c'est jusqu'au 30 juin, je le redis, les dimanches et les lundis. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'être en tête à tête avec une femme engagée, militante, combattante et surtout... ultra créative, quoi. C'est ça qu'on aime avec le parcours de Frida Kahlo.
Oui.
Semaine prochaine, nous recevrons Yannick Aleno pour Pâques. Il va nous aider, il va vous aider à faire votre menu pour Pâques. Donc, on a de belles recettes en perspective. Merci à mon équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. Lucie Descouraux, la rédaction en chef, avec Marion Sauveur, Alexandra Bischoff, Anthony Da Silva, Agnès Vaudin à la programmation, Loïc Vimard à la réalisation. Bon week-end, faites le marché, la cuisine et le reste. Voilà, bon week-end.